et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous me permettrez de m'adresser en priorité à tous les participants de ces journées Jean Vaquier et de parler un petit peu du thème qui nous retient cette année, la famille et tout spécialement la subversion dans la famille. C'est très important que de méditer sur ce thème de la famille pour deux raisons, au moins une raison qui est toute naturelle, c'est que la famille est la cellule de base de la société, donc toute la vie sociale dépend de là, et d'ailleurs vous savez que la doctrine sociale de l'Église, essentiellement et d'abord, fondamentalement, est une doctrine qui regarde la vie de famille. Les apôtres notamment ont beaucoup parlé du mariage, c'est le début de la doctrine sociale de l'Église. Et puis, de surcroît, la famille aujourd'hui est l'enjeu d'un combat capital. La Révolution fait une lutte, une guerre à mort contre la famille catholique et fabrique sans cesse des lois nouvelles. On en a eu encore beaucoup de témoignages dans ces temps récents. Et donc on peut dire que la famille est vraiment en première ligne. Ce n'est pas une exagération que de dire que le grand malheur de notre société, outre la crise dans l'Église évidemment, mais ce n'est pas sans lien d'ailleurs, c'est la dissolution des familles. Et aujourd'hui c'est vraiment un drame. Les familles sont éclatées. Alors, il faut être bref. Quel est le plan de Dieu sur la famille? Les principes sont dans saint Paul, vous le savez. C'est saint Paul qui a donné les principes fondamentaux. Saint Paul est un peu déconcertant d'ailleurs à ce point de vue. Il résume tout en trois mots. Pour le père de famille, le chef de famille, il emploie justement le mot de chef, l'autorité. Et puis pratiquement ça se résume là. Non pas que saint Paul oublie le reste, mais il rattache tout à cette idée-là. Pour ce qui est de l'épouse, c'est le thème de la soumission. Saint Paul insiste beaucoup sur cette idée. Là encore, il ne faut pas croire que saint Paul est caricatural. Il montre que c'est vraiment le point essentiel, le point d'achoppement souvent d'ailleurs. Et puis pour ce qui est des enfants, puisque la famille a trois éléments, trois pôles, le père, la mère et les enfants, le mot employé par saint Paul, c'est obéissance. Il ramène tout à ce mot. On peut dire qu'avec ces trois mots, on a toute la doctrine que saint Paul veut énoncer, tous les grands principes de la vie de famille catholique. Mais saint Paul ne se contente pas simplement d'employer ces trois mots. À chaque fois, il ajoute quelques précisions très brèves en disant par exemple que le mari est chef, oui, mais comme Jésus-Christ est chef de l'Église. Ou quand il parle de la femme, de l'épouse, « Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur ». Et quand il parle ensuite des enfants, il dit « Obéissez à vos pères et mères dans le Seigneur, car cela est juste ». Donc vous voyez, cette précision est très importante. « Dans le Seigneur » ou « comme Jésus-Christ ». Ces mots nous montrent le modèle. C'est donc pas arbitraire ce que nous dit saint Paul. C'est quelque chose qui est... il nous donne un modèle. Et ce modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La famille chrétienne doit trouver en notre Seigneur sa raison d'être, son explication ultime. Et c'est une grande garantie. C'est une garantie pour l'époux et pour l'épouse. C'est Jésus-Christ auquel ils doivent être tous les deux soumis qui va être vraiment la règle ultime qui permettra à l'époux d'exercer l'autorité et à l'épouse de se soumettre à son mari. C'est pas arbitraire. Et en dehors du mariage chrétien, justement, cette garantie n'existe pas. Et c'est pour ça que tout devient désordre, que la soumission pour l'épouse devient quelque chose d'odieux et que l'autorité de la part de l'époux devient souvent tyrannique et que l'obéissance du côté des enfants devient si difficile. C'est parce qu'il n'y a plus cette règle ultime, ce principe fondamental, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment le mariage chrétien dont on parle ici. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce résumé un peu lapidaire que saint Paul nous donne dans ses épîtres, c'est un résumé qui va à l'essentiel. Saint Paul veut nous faire comprendre où est cet essentiel. C'est pour ça qu'il insiste sur ces quelques mots. Le principal objectif, le principal devoir pour chacun des membres de la famille est indiqué par saint Paul. Pour le mari, c'est d'être la tête, le chef de famille. Pour l'épouse, c'est d'être l'âme, le cœur du foyer. Et cela demande effectivement une grande soumission et en même temps une grande modestie. Ce sont les deux mots que saint Paul emploie pour ce qui est de l'épouse. La soumission, la modestie. Et pour pouvoir s'exercer effectivement en pleine efficacité, en pleine sérénité, ce rôle si délicat, si beau de l'épouse exige d'elle une certaine dépendance, un certain effacement et aussi une profonde pureté. Donc on comprend très bien cette pensée de saint Paul, elle est très profonde. Alors, au fond, si on veut, en regardant les choses d'un point de vue négatif maintenant, dire quels sont les grands écueils, eh bien il y en a trois. Pour chacun des membres de la famille, l'écueil est spécifique. Pour le mari, l'époux, le grand écueil, c'est la démission, l'abdication de son autorité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Par démission ou par abus de pouvoir, par un recours arbitraire à la force qui remplace l'autorité, ou par tout simplement la démission, l'abdication des responsabilités, parce que ça coûte trop, parce que c'est trop difficile. Donc c'est ça ce qui menace l'autorité du chef de famille, la démission. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, où sont les pères de famille? Pour ce qui est de l'épouse, c'est l'émancipation. Elle va utiliser les dons de Dieu, non plus pour les exercer dans le cadre de sa famille, pour l'éducation des enfants, pour l'amour de son mari, pour donner cette délicatesse, cette profondeur, cet esprit surnaturel à la vie de famille. Elle va utiliser tous ses dons pour plaire, pour attirer. C'est une profanation. C'est important de le comprendre. L'épouse, quand elle sort de son rôle, profane sa dignité foncière. Et aujourd'hui, toutes les modes qui sont lancées par la Révolution sont des profanations. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est à ce niveau-là que se situent les choses. Et quand on a compris ça, on a compris l'essentiel. Et on comprend tout à fait la discipline de l'Église à cet égard. Elle est très sage, elle est très profonde. C'est un garde-fou qui permet aux épouses, aux femmes, de garder toute leur richesse, toute leur qualité que Dieu leur a donnée pour une finalité bien précise. Et puis pour ce qui est de l'enfant, le grand écueil, c'est l'indépendance, l'autonomie. Autonomie, ça veut dire on veut se faire sa propre loi, être sa propre loi. Et aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe. La plupart des enfants dans les familles modernes sont totalement autonomes et on les encourage à l'être. Donc voilà pour ce qui est de la doctrine. Ce que je voudrais juste ce matin, puisque dans le cadre de nos journées Jean Vaquier, on s'adresse surtout à des pères de famille, c'est dire quelques mots justement du père de famille. Quel est son rôle? Et ici, il y a un autre principe auquel on peut recourir, outre saint Paul. C'est ce qui est dit dans le quatrième commandement. Vous connaissez le décalogue, les commandements de Dieu. Le quatrième commandement dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Tu honoreras. Vous voyez, le mot est choisi à dessein. Ce quatrième commandement ne se comprend qu'en fonction du premier. Vous savez que le quatrième commandement, c'est le premier commandement de la deuxième table. Il y a deux tables. La première table qui regarde nos devoirs envers Dieu et la deuxième table qui regarde nos devoirs envers le prochain. Et chacun de ces premier commandement, le premier commandement de la première table, le premier commandement de la deuxième table, est en quelque sorte celui qui donne le principe, qui va éclairer tous les autres commandements qui suivent. Donc il importe beaucoup de rattacher la seconde table à la première et de rattacher tous les commandements au premier commandement de chacune des tables. Et donc il y a un lien évident entre le premier et le quatrième commandement. Il y a un lien très étroit. Ils sont unis. Ils ne se comprennent bien qu'en fonction l'un de l'autre. Alors, comment est formulé le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et le quatrième commandement, honore ton père et ta mère. Tu honoreras. Oui, ce n'est pas le même mot. C'est à dessein. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu dire, s'agissant du père, tu honoreras ton père, et s'agissant de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit plutôt « Tu honoreras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton Père » Parce que finalement, il faut bien aimer son Père, il faut bien honorer Dieu aussi. Eh bien, la raison est toute simple. C'est parce que, sauf exception, évidemment, il y a toujours des exceptions, quand les parents ou les enfants sont vraiment très indignes, il est naturel d'aimer ses parents, alors qu'il est difficile de les honorer. L'honneur dû à ses parents, l'honneur dû au Père notamment, c'est une notion qui est délicate, qui n'est pas évidente. Alors que d'aimer ses parents, c'est naturel. Et en revanche, honorer Dieu, c'est beaucoup plus naturel que de l'aimer. Tous les peuples, même les plus primitifs, même ceux qui étaient les plus éloignés de la vérité chrétienne, honoraient les dieux, des faux dieux. Mais tout de même, ils avaient le sens du respect de la divinité. Alors que l'amour de Dieu, c'est quelque chose que notre Seigneur nous a enseigné. mais qui était pratiquement méconnu avant. Il était bien enseigné déjà dans l'Ancien Testament, mais mal compris, mal vécu. Donc il était important d'insister sur l'amour de Dieu et sur l'honneur dû aux parents. Alors expliquons, qu'est-ce que veut dire « tu honoreras ton père » puisque c'est surtout du père dont nous voulons parler. C'est un corollaire, l'expression « honorer » ici est un corollaire de l'autorité paternelle. Le respect dû à ses parents, à son père, vient du fait qu'il a l'autorité. C'est un corollaire, les deux sont liés. C'est une notion d'ailleurs que Dieu s'applique à lui-même en tant qu'il est père précisément. Dieu est père, il est notre père, on le dit tous les jours en récitant la prière du Notre Père. Or, dans la Sainte Écriture, Dieu dit ceci, « Si ego pater, ubi est honor meus ?» Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Il y a donc un honneur qui est dû à Dieu comme père. Et il y a un honneur dû au père en tant que père parce qu'il a l'autorité. Vous voyez que l'honneur, le respect, enfin c'est l'honneur plus exactement, ça dit plus que le respect, est lié au fait de la paternité, au fait de l'autorité. Or, cet honneur, aujourd'hui, dans bien des cas, on peut même dire dans la plupart des cas, n'est plus rendu, ou du moins il est mal rendu. Il n'est pas rendu comme on le devrait. Pourquoi ? Et ça, c'est intéressant d'y réfléchir, parce que ça nous explique justement le drame de beaucoup de pères de famille actuels. Il y a diverses raisons qu'on peut avancer. On en a d'ailleurs avancé plusieurs au fur et à mesure que ce constat a été fait. On peut dire aujourd'hui que l'ambiance générale délétère fait que la notion de respect, d'honneur est une notion qui n'est plus connue dans quelque contexte que ce soit. On peut aussi insister sur le fait que l'État et ses lois sont de plus en plus génératrices de médiocrité. L'État a une législation qui est très égalisatrice, très démocratique, qui va donc à l'encontre de cette notion de l'honneur dû à l'autorité, dû au père. Et puis les mœurs, quand les mœurs sont relâchées, que l'impureté est omniprésente, il est évident qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'honneur. Comment un père pourrait-il réclamer l'honneur qui lui est dû s'il vit d'une manière totalement sordide? Et tout cet ensemble de causes font qu'aujourd'hui, les caractères forts deviennent très rares. La formation est très déficiente à cet égard. Et notez-le au passage, c'est important de le comprendre. Les principales victimes, ce sont les enfants. Et chez les enfants, les garçons. Les garçons aujourd'hui sont devenus en règle générale mous, versatiles, apathiques. C'est eux les principales victimes de cette perte du sens de l'autorité. Un garçon a besoin d'un père pour être formé. S'il n'a pas de père, eh bien, il ne deviendra jamais lui-même un homme, au sens plein du mot. Toutes ces causes sont vraies, et pourtant, elles ne suffisent pas à expliquer les choses. Il y a une autre cause qui n'est pas extérieure pour le coup, c'est la démission des pères chrétiens. Les pères eux-mêmes, en quelque sorte, ont tendu le cou à cette législation ou à cette nouvelle conception des choses délétère. Je vous lis une citation, je crois que je vous l'avais déjà donnée, mais c'est important de redire les choses quand elles sont vraiment des choses essentielles. C'est le père d'Assonville qui écrivait cela en 1944, donc juste à la fin de la guerre. Il s'adressait à des chefs de famille. « On n'aurait pas décapité les pères s'ils n'avaient pas tendu le cou. C'est la base qui manque, les principes. En fait, beaucoup de pères doutent d'eux-mêmes et de leur droit à commander. Ignorant les titres et les fondements de l'autorité, ils se dérobent. » Voilà, ils se dérobent. « Commander leur fait l'effet d'un abus de pouvoir. » Il faut du courage aujourd'hui pour commander, parce que c'est mal vu. Ça paraît comme une monstruosité, comme une faute. Comment y verrait-il l'accomplissement d'un devoir ? Oui. Et alors le père d'Assonville conclut, autoritarisme ou laisser aller, selon le tempérament du père, c'est l'aboutissement de ce manque de doctrine. Derrière tout ça, il y a un manque de doctrine. Et les deux conséquences, selon les tempéraments, ça va être ou l'autoritarisme, une forme de tyrannie, on veut absolument imposer son autorité, mais de manière arbitraire, ou alors le laisser aller. On baisse les bras, on laisse aller. Et c'est presque plus général. Et si on rattache ça à la notion d'honneur, eh bien, vous voyez, cet honneur, qui est due au Père, beaucoup de pères eux-mêmes n'en ont plus conscience. Ils n'ont plus conscience de cet honneur qui leur est dû, de cette autorité qui est la leur. Alors ils ne se rendent même plus à eux-mêmes cet honneur dû à leur paternité. Ils ne se respectent plus comme pères. Et du coup, ils n'osent plus être pères et donc agir comme pères. Ils ne savent plus imposer cet honneur à ceux sur lesquels ils ont, ils ont autorité. Parce qu'eux-mêmes ne se rendent plus compte de leur droit à cet honneur et de leur devoir de le faire respecter. C'est ça la démission. À proprement parler, c'est ça. Ce n'est pas forcément par mauvaise volonté, c'est souvent par ignorance. Et c'est pour ça que c'est important de reprendre toute cette grande doctrine. Alors les conséquences, comme le dit le père d'Assonville, c'est soit l'abus de pouvoir, l'autoritarisme, ou alors le laisser-aller, l'abdication pure et simple, la démission. C'est une subversion. Le thème de ces journées, Jean Vaquier, c'est la subversion dans la famille. Il y a là une subversion très profonde, qui est souvent ignorée et qui est souvent consentie par beaucoup de pères de famille, même catholiques. Et c'est là, d'ailleurs, le drame. Alors, il faut lutter contre elle. On pourrait faire beaucoup d'applications, je ne veux pas les faire. Elles seront faites, d'ailleurs, certainement dans les conférences qui vont suivre. Donc, il est inutile de s'y attarder. Vous voyez, un exemple tout courant, très courant, hélas. Combien de pères de famille aujourd'hui sont, tout en étant physiquement présents dans leur famille, moralement absents? Parce que le métier prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. La vie moderne est difficile, elle est compliquée. Il y a des surcharges considérables de paperasserie et autres, si bien que le père de famille n'est plus à sa tâche essentielle. Alors rajoutez à cela Internet et tous ces moyens modernes qui font qu'on rentre du travail, on se plante devant son ordinateur, on est présent physiquement, on est absent pour sa famille. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir et sur lequel il faut prendre des résolutions importantes. Voilà. Alors, derrière tout ça, et je terminerai là-dessus, il y a une raison qui est encore plus profonde, car il faut tout de même se poser la question. Pourquoi, ainsi, des pères de famille catholiques peuvent-ils perdre ce sens de l'honneur qui leur est dû et qu'ils se doivent à eux-mêmes? Eh bien, c'est qu'ils ne sentent plus l'autorité de Dieu au-dessus d'eux. Et il y a un ordre dans le plan de Dieu. Et donc, c'est parfaitement logique. Quand on ne sent rien qui s'impose à soi au-dessus de soi, eh bien on ne saurait imposer quelque chose au-dessous de soi. À partir du moment où on a perdu le sens de l'autorité de Dieu, de la dignité de Dieu, de la majesté de Dieu, de l'autorité de Dieu, on ne peut plus exercer l'autorité qui est la sienne. C'est normal. Et les inférieurs le sentent très bien. Si des enfants obéissent à leurs parents, c'est dans la mesure où ils sentent que leurs parents sont représentants de Dieu. Ils ne sauront peut-être pas l'expliquer. Bien des fois, ils n'en auront pas conscience. Et pourtant, c'est bien vrai. Alors, quand cet ordre n'est plus respecté, quand Dieu n'est plus à la première place, au-dessus de tout, notamment dans la famille, c'est l'anarchie. C'est vrai de l'individu, c'est vrai de la famille, c'est vrai de la société. C'est vrai de l'individu, on le sait tous par expérience. Quand on est dans le péché, il y a un désordre, il y a une révolution. Dieu qui devrait dominer la raison qui devrait dominer les passions, c'est l'inverse. Ce sont les passions qui dominent la raison et la raison qui domine Dieu ou qui cherche à le dominer. Dieu devient absent, il est chassé de l'âme. Donc au niveau de l'individu, c'est comme ça que ça se passe. Mais la même révolution existe aussi dans la famille et dans la société. Quand l'ordre voulu par Dieu, cet ordre de l'amour dont parlait Pie XII en parlant de la famille, l'ordre qui veut que dans la famille, il y ait une autorité et que chacun ait un rôle. Si cette autorité n'est plus exercée, la famille ne peut plus vraiment remplir son rôle. Il y a forcément un traumatisme quelque part. Il y a quelque chose qui est désordonné. Et au fond, la crise actuelle, on pourrait la ramener à ce mot, c'est une crise de l'ordre surnaturel. D'abord, on a perdu le sens du surnaturel. Et puis au plan social, on a perdu aussi le sens de l'autorité. Bien des choses aujourd'hui vont mal, notamment dans l'Église, à cause d'un manque d'autorité, d'une crise au niveau de l'autorité. Bien des choses vont mal dans les familles et dans les entreprises ou dans toutes les sociétés ou les corps intermédiaires, quels qu'ils soient, parce qu'il y a une crise d'autorité. Et c'est très important de réfléchir à ça. Alors, si on veut rétablir l'ordre, c'est la conclusion logique, c'est tout simple. si on veut rétablir cet ordre voulu par Dieu, il faut rattacher les autorités secondes à l'autorité première. Toutes ces autorités secondes participées qui tirent leur autorité, leur paternité de Dieu, il faut qu'elles retrouvent le sens de la paternité de Dieu. Vous connaissez, c'est une phrase de saint Paul encore, vous voyez, saint Paul a tout dit à ce propos-là, « Toute paternité tire son nom de la paternité divine. » Toute paternité, dit-il, c'est important de le comprendre, toute paternité, c'est-à-dire, il ne veut pas dire ici que c'est une simple dénomination extrinsèque. Quand il dit « tire son nom », ce n'est pas simplement son nom, c'est « tire sa réalité ». En d'autres termes, si l'autorité n'est plus soumise à Dieu, elle est vide de sens et même de contenu. Elle disparaît, elle se disloque, elle dégénère en autoritarisme, comme on a dit tout à l'heure, ou en caricature. Il y a une figuration, ce sont des autorités qui sont simplement des autorités apparentes, des fantoches d'autorité, mais ce n'est plus de véritables autorités. Et il n'y a plus que la force, il n'y a plus d'autorité, c'est la force qui va l'emporter. Alors, conclusion de tout ça, retrouvons le sens de l'autorité de Dieu, de l'honneur de Dieu, de la majesté de Dieu. La Sainte Écriture a un mot pour le dire, c'est un mot qui est très profond, qui aujourd'hui est très mal compris, c'est la crainte de Dieu. La Sainte Écriture dit très souvent, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tout commence par là, il faut avoir la crainte de Dieu. Et si on a la crainte de Dieu, on a le sens de son autorité, et donc on aura le sens de nos devoirs à cet égard. Des autorités que Dieu nous départit, qu'il nous demande d'exercer. C'est le conseil que la Sainte Vierge donne à Cana quand les serviteurs sont là et que les jeunes mariés n'ont plus de vin. Alors la Vierge Marie remarque la chose, elle sait que son fils va faire un miracle et donc elle s'adresse aux serviteurs en leur disant simplement « faites tout ce qu'il vous dira ». Bien, on peut d'une certaine manière appliquer ce conseil et dire, voilà, il faudrait écouter nous aussi, surtout tous ceux qui ont des responsabilités justement, écouter ce conseil de la Vierge Marie et bien rattacher tout ce qu'on doit faire à l'ordre que Dieu veut nous donner, à cette autorité de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira, tout ce que Dieu, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous fassions, il faut le faire. Il faut le faire sans état d'âme, avec beaucoup de fidélité. C'est très important. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous éclaire et qu'elle permette justement aux pères de famille d'exercer vraiment leur autorité telle que Dieu veut qu'ils l'exercent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.